sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu. Texte de la liturgie catholique pour le premier dimanche de Carême. Alors Jésus est conduit dans le désert par le souffle spirituel pour être éprouvé par le diable. Ayant jeûné 40 jours et 40 nuits, finalement il a faim. L'éprouveur s'approche et lui dit,
« Si tu es fils de Dieu, dis que les pierres que voici deviennent des pains. »
Lui répond et dit,
« Il est écrit, l'humain ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »
Alors le diable l'emmène dans la ville du sanctuaire et le place sur le faîte du temple. Il lui dit,
« Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il commandera à ses anges pour toi, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. »
Jésus lui déclare,
« Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. »
De nouveau, le diable l'emmène sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit,
« Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes devant moi et m'adores. »
Alors Jésus lui dit,
« Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. »
Alors le diable le laisse, et voici que des messagers de Dieu s'approchent, et ils le servaient.
Eh bien, bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bonjour, André.
Bonjour, Georges.
Voilà donc trois petites scènes qui pourraient faire un bon scénario de théâtre. Le décor, les acteurs, le dialogue, tout cela fait une mise en scène qui frappe le spectateur. Il s'agit de la mise à l'épreuve de Jésus, ce que nous appelons les tentations. En grec, on sait que le même mot peut se traduire aussi bien par tentation que par épreuve. Mais il ne s'agit pas ici des petites tentations quotidiennes qui nous font faire de temps à autre un petit écart à notre ligne de conduite, comme par exemple avoir négligé un peu de prier, ne pas avoir fait l'effort de rendre visite à un malade, s'être laissé aller à la colère. Je ne veux pas dire que ces écarts n'ont pas d'importance, mais dans notre texte, il s'agit de tentations majeures, celles qui concernent les choix qui vont orienter la conduite de notre vie.
Bien, justement, où ce texte est-il situé dans le récit évangélique?
Eh bien, Matthieu place ce scénario de la mise à l'épreuve de Jésus entre, d'une part, le baptême, et d'autre part, le début de la mission. Eh bien, au baptême, Jésus a reçu du Père la mission d'être son prophète, son porte-parole. Il a été investi de l'Esprit Saint, de l'Esprit divin, comme David d'autrefois l'avait été, et ses successeurs, les rois qui étaient consacrés pour diriger Israël au nom de Dieu. Ces rois consacrés, dans la langue juive, on les appelle les Messies. Alors, comment Jésus va-t-il réaliser cette mission? On peut penser qu'il a voulu, au départ, faire comme une sorte de retraite pour décider de la manière dont il allait répondre au Père. Mais comme notre scène va être rédigée après Pâques, les évangiles ont tous été construits, rédigés après Pâques, eh bien, on va là comme reprendre tous les choix que Jésus a fait au long de son ministère. Un peu comme si au début de la vie du Christ, on présentait en une seule fresque, en un seul tableau, toutes les mises à l'épreuve que Jésus aura pendant sa vie de prédicateur.
Le lieu de cette fresque est le désert. Pourquoi donc le désert?
Eh bien, on pourrait effectivement envisager que c'est en plein monde que les grands choix de notre vie sont vraiment mis à l'épreuve. Le monde avec les conflits de pouvoir, les séductions de la richesse. Mais dans la tradition de la Bible, c'est d'abord le désert qui est le lieu de la rencontre avec Dieu. Le désert, c'est un lieu qui est nu de toute végétation, d'une couleur souvent uniforme. Et cela nous met en face de l'essentiel. En effet, la vie quotidienne, ordinaire, risque souvent de masquer la question de Dieu. On est diverti, comme dirait Pascal, par les occupations, le bruit, les plaisirs de la table et de la chair. Diverti au sens où toutes ces choses détournent notre attention de la question qui est la question fondamentale. Où est le but de notre vie? Quel est son sens véritable? En quoi est-ce que nous plaçons notre véritable bonheur?
Comment comprendre ce diable qui vient éprouver Jésus? L'image que nous en avons est-elle bien réaliste?
Oui, bien, les livres d'histoire sainte d'autrefois, et aussi d'ailleurs de nombreux tableaux de peintres, décrivent souvent le diable comme ayant comme un être avec une tête d'homme et ayant des cornes, et avec à la main une fourche. C'est bien sûr une image. L'intéressant, c'est plutôt de regarder le sens des noms que l'on donne. Le mot diable vient d'un mot grec, diabolos, qui signifie celui qui sème la division. Autrement dit, lorsqu'on sème la division, on est diabolique. Jésus, lui, va traiter ce diable de Satan. Et Satan, c'est un mot hébreu qui signifie l'adversaire. Dans un procès, eh bien, l'adversaire, c'est celui qui vous accuse. Les rabbins juifs décrivent Satan comme celui qui cherche à troubler les relations du peuple avec son Dieu. Et cela, eh bien, en invitant les fidèles à faire le mal et en les accusant auprès de Dieu pour que Dieu les délaisse. Dans le livre de Job, on a tout à fait cela bien traduit. Ce Satan obtient de Dieu la permission d'éprouver la fidélité de Job en lui envoyant toutes sortes d'épreuves et de châtiments.
La mise à l'épreuve dure 40 jours. Ce chiffre est-il purement symbolique?
Mais on sait qu'au temps de Moïse, 1200 ans avant Jésus, c'est pendant 40 ans que le peuple de Dieu a été mis à l'épreuve dans le désert. On sait qu'à ce moment-là, les Hébreux fuyaient l'Égypte, qui était le lieu de leur esclavage, et qu'ils cherchaient à rejoindre la terre de Palestine, la terre promise par Dieu. Et pour cela, ils vont traverser le désert entre l'Égypte et la Palestine, mais ils vont s'y trouver encore plus démunis qu'en Égypte. Ils vont connaître la faim, la soif. Alors, la question va se poser. Est-ce que la liberté est plus importante que la faim? Le peuple de Dieu va-t-il puiser en Dieu la force pour vaincre les épreuves de la faim et de la soif, pour aller à l'essentiel, c'est-à-dire à vivre vraiment une vie spirituelle profonde, à être solidaires les uns des autres, ou bien est-ce qu'ils vont préférer revenir en Égypte? En Égypte, certes, ils étaient esclaves, mais ils avaient à manger. Eh bien, ce temps de désert a donc duré 40 ans pour les tribus juives. C'est dans toute l'Antiquité, d'ailleurs, que 40 est un chiffre symbolique, pas seulement chez les Hébreux, un chiffre conventionnel, un peu comme le temps qui est nécessaire à la maturité d'une personne ou la maturité d'un événement. Dans la Bible, on trouve encore Moïse et Élie qui vont vivre des moments très importants durant 40 jours. Moïse va en effet rester sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, la parole de Dieu. Et il est là 40 jours et 40 nuits. Élie marchera 40 jours et 40 nuits pour atteindre cette même montagne où il va faire la rencontre de Dieu dans la brise légère. Eh bien, puis si ce chiffre de 40 est un chiffre conventionnel, les 40 jours de retraite de Jésus au désert peuvent peut-être donc symboliser tout le temps de sa mission, de sa prédication. Et en regardant chacune des épreuves, eh bien, nous allons donc tenter de mettre ces épreuves en lien avec des moments importants de la vie de Jésus.
La première épreuve est celle des pains. Que signifie-t-elle?
Effectivement, le démon dit à Jésus, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Eh bien, le pain, c'est ici le symbole de la nourriture en ce cas-là d'essentiel. C'est le symbole du repas, ce sans quoi on ne peut pas survivre. On peut aussi d'ailleurs étendre cela à l'ensemble des biens de consommation, la nourriture, le vêtement, la maison. Ces biens sont certes nécessaires, mais ils ne doivent pas s'obtenir en sacrifiant ce qui est encore plus nécessaire, qui est la liberté et l'amour. Jésus le dira plus tard à ses auditeurs.
Ne soyez pas inquiets et préoccupés de quoi manger, de quoi se vêtir. Cherchez en premier le règne de Dieu et la droiture du cœur.
Dieu règne dans une vie, nous dit Jésus, lorsqu'on se préoccupe d'abord d'aimer son prochain, d'être solidaire de tous, et tout le reste doit venir après. Si quelqu'un se préoccupe de nourrir son spirituel, alors le matériel viendra en second, ce n'est pas secondaire, mais ça viendra en second, comme un complément. Et quoi qu'il lui arrive, alors cet homme, cet être humain sera fort pour affronter les épreuves. On se souvient qu'au désert de l'Exode, les Hébreux avaient reçu la manne comme un pain venant de Dieu. Et au long de l'histoire, les commentaires des rabbins ont vu dans cette manne la parole même de Dieu, la nourriture spirituelle qui permet d'affronter les périodes de désert et d'épreuves. Mais on ne donne jamais spontanément priorité au spirituel, ni quand on a faim, ventre affamé n'a pas d'oreille, dit-on, ni quand on est gavé, ventre repu non plus n'a pas d'oreille. Lorsqu'on n'a pas de travail, pas de projet, on peut être amené à tout sacrifier pour avoir du pain. Les empereurs de Rome savaient cela, qui donnaient aux foules désœuvrées du pain et les jeux du cirque pour les tenir tranquilles. Et aujourd'hui, les sans-travail peuvent parfois être asservis en attendant tout du bien-être social. Félix Leclerc chantait « La meilleure façon de tuer quelqu'un est de ne le payer et de le payer à ne rien faire ». Les gouvernants, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, peuvent être tentés de gagner la confiance ou la soumission des foules en leur donnant du pain et des jeux. On peut aussi d'ailleurs endoctriner les foules en les abreuvant de belles paroles. Les grands orateurs connaissent ce pouvoir de l'éloquence. Les gens sont suspendus à leurs lèvres, boivent leurs paroles, s'en nourrissent. Ce charme du discours peut de fait séduire les foules et les rendre esclaves. Des gens comme Hitler ont usé et abusé de leur pouvoir d'orateur. Eh bien, Jésus lui-même va connaître cette tentation lors de sa prédication. On se souvient, les foules sont comme des brebis sans berger. Elles connaissent la pauvreté, l'occupation des Romains. Elles n'attendent qu'une seule chose, qu'un leader charismatique les mène, les conduise et leur dise ce qu'il faut faire. Et ce jour-là, eh bien, Jésus avait prêché depuis le matin. Il avait nourri la foule de son enseignement. Et le soir, il va multiplier le pain pour elle. Et cela déchaîne l'enthousiasme populaire. Il a un enseignement qui est plein d'autorité et il donne gratuitement la nourriture. Jésus sait bien qu'il pourrait faire n'importe quoi à cette foule qui a trouvé en lui comme son gourou, son leader. Écoutons le récit de Jean qui explique bien cet épisode.
À la vue du signe qu'il venait d'accomplir, ils dirent « C'est vraiment lui le prophète, celui qui doit venir ». Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retire seul dans la montagne.
Oui, ce soir-là, cette nuit-là, Jésus a choisi de se retirer dans la solitude. La montagne, comme le désert, est le lieu du tête-à-tête avec le Créateur, avec le Père. Et Jésus se retrouve donc seul pour connaître la pensée de Dieu. Et le lendemain, il dira aux foules qui finissent par le trouver...
Vous me cherchez parce que vous avez été gavés de pain. Cherchez la nourriture de la vie éternelle.
Oui, Jésus veut tourner les regards vers la véritable nourriture qui est d'abord spirituelle. C'est cette nourriture spirituelle qui donnera la force de lutter pour plus de justice en étant solidaire de tous ceux qui souffrent. Qui donnera les forces pour garder le respect de soi-même, pour refuser de vendre sa liberté pour un peu de pain. C'est En effet, cette faim, cette soif de liberté et de solidarité, c'est cela qui sauve notre vie. Seul un être libre et aimant est capable de vie éternelle. Car l'être humain n'est pas créé seulement pour quelques années de cheminement terrestre, il est fait pour la rencontre de Dieu dans une vie d'éternité. Et pour vivre de la vie de Dieu, eh bien, il faut choisir de vivre libre, responsable, de vivre solidaire, d'aimer sans condition. Si les foules veulent faire roi Jésus, c'est d'abord parce qu'elles croient retrouver la liberté et le bien-être en chassant du pays l'occupant romain. Mais alors, cela se ferait par une révolution violente et Jésus s'y refuse. Pour lui, la violence ne peut pas conduire à la vraie solidarité humaine. Toute violence, en effet, déchaîne en l'être humain des forces aveugles, des forces de haine, de vengeance. Et si ces forces détruisent physiquement, moralement, l'adversaire, elles détruisent aussi moralement celui qui les emploie. Et même, cela est vrai si on emploie la violence au nom de la liberté pour défendre sa liberté, qui est son prochain, détruit son âme. Cette attitude de Jésus, de refuser d'être roi, va bien sûr provoquer la déception des foules, mais aussi celle de nombreux de ses disciples, comme le dit Jean au chapitre 6.
À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples se retirent et cessent de cheminer avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Et vous, avez-vous l'intention de partir ?» Mais Simon-Pierre lui répond, « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as des paroles de vie éternelle. Nous, nous avons cru que tu es le Saint de Dieu. »
En refusant d'asseoir son ascendant sur les foules en leur donnant du pain, en refusant de les conduire vers ce qui est pour lui une fausse liberté, Jésus veut orienter chacun, chacune, vers Dieu et vers la vraie liberté intérieure, vers la véritable dignité. L'être humain vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour Jésus, toute parole qui n'oriente pas vers le spirituel est insuffisante pour nourrir le cœur humain, pour donner sens à la totalité de sa vie. Toute parole qui est véritablement spirituelle vient de Dieu, eh bien c'est cette certitude qui va dicter la conduite de Jésus tout au long de sa mission.
La seconde tentation est de mettre Dieu à l'épreuve. Jette-toi en bas du toit du temple. Que signifie cette épreuve?
On peut en chercher des exemples, comme nous l'avons fait tout à l'heure, dans le ministère de Jésus. Bien souvent, en effet, les pharisiens, pour mettre Jésus à l'épreuve, vont demander un signe qui vienne de Dieu.
Poussant un profond soupir, il leur dit, « En vérité, je vous le déclare. Il ne sera pas donné de signe à cette génération. »
Ce que les pharisiens demandent là, eh bien, c'est que Dieu nous prouve son amour. Pendant l'Exode, les Hébreux avaient déjà demandé cela à Moïse. « Donne-nous de l'eau pour nous prouver que Dieu est vraiment au milieu de nous. » Est-ce que nous n'agissons pas souvent ainsi envers Dieu? On lui dit « Si tu es Dieu, guéris-moi de cette maladie. Si tu es Dieu, protège-moi de tout accident, même si je conduis ma voiture avec un peu trop d'alcool dans le sang. » Si tu es Dieu, fais-moi réussir à cet examen, même si je n'ai pas beaucoup travaillé. Et nous agissons peut-être aussi de la même façon avec ceux que nous aimons. Si toi, ma femme, tu m'aimes vraiment, bien tu vas choisir de venir avec moi au match de baseball plutôt que d'aller te promener au jardin botanique. Si toi, mon conjoint, tu m'aimes, tu dois deviner mes désirs sans que je les exprime et tu dois les exaucer. Nous demandons de nos proches, nous exigeons, parfois subtilement, qu'ils nous donnent des preuves de leur amour. Si tu m'aimes, prouve-le-moi. Cette exigence est d'une certaine manière une façon, peut-être inconsciente souvent, mais une façon de faire violence à l'autre. Contraindre quelqu'un à aimer en lui demandant de prouver qu'il nous aime, eh bien, c'est tuer la possibilité même de l'amour dans son cœur. En effet, l'amour ne peut exister qu'à une condition, qu'il soit un geste, une décision libre. La liberté de ceux qui s'aiment, la totale gratuité de leurs dons réciproques est nécessaire à l'amour. Dans notre récit, la réponse de Jésus est sans appel. Tu ne mettras pas l'amour de Dieu à l'épreuve. Puisque Dieu est amour, il est certes normal et bon d'espérer, d'accueillir les signes de son amour. Mais jamais il ne nous faudra exiger tel ou tel signe précis de sa bonté envers nous. Espérer et attendre, oui, mais jamais exiger et fixer des délais. Jamais il ne nous faut marchander notre propre réponse « Je t'aimerai, toi mon Dieu, si tu m'accordes telle grâce ». Non, tout geste d'amour vrai est justement une grâce, c'est-à-dire quelque chose, un geste gratuit et qui doit se recevoir gratuitement et sans condition.
Est-ce bien approprié si nous appelons la troisième épreuve l'épreuve du pacte satanique?
Oui, le diable montre à Jésus tous les royaumes du monde. Tout ça, je te le donne si tu te prosternes devant moi. Oui, bien c'est vrai que Dieu ne règne pas sur le monde. Le monde est plutôt le règne de l'argent, le règne des armes, le règne du mensonge. Celui qui met sous son pouvoir un grand nombre d'humains, c'est en fait le diable, le prince du mensonge, comme Jésus l'appelle. C'est lui qui séduit l'être humain et qui le rend son esclave. C'est lui qui tient en main les pouvoirs de ce monde, ceux de l'argent et de la loi du plus fort. Mais comment comprendre ce pacte que Satan propose à Jésus? Comment comprendre que cela même ait pu être une épreuve pour Jésus? C'est difficile. Enfin, je veux balbutier une sorte de réponse. Ceux qui prêchent la justice, ceux qui prêchent la paix, l'amour, est-ce qu'ils ne se font pas illusion? Est-ce qu'ils ne sont pas des utopistes? Car, on l'a dit déjà, chacun et chacun ne le sait que trop, l'humain est un loup pour l'être humain. Pour assurer un minimum de justice, on est tenté, parfois, d'utiliser le pouvoir de la contrainte. On est tenté de vouloir le bien des êtres humains, même malgré eux. Est-ce qu'il n'est pas mieux d'établir l'ordre par la force, même au prix donc de sacrifier la liberté? Car cette liberté, on peut se dire qu'elle ne conduit qu'au chaos, au déchaînement des égoïsmes de chacun. La libre concurrence, la libre arbitre, l'économie libre, c'est un peu le renard libre dans le poulailler. La liberté, est-ce que ce n'est pas pour beaucoup un fardeau dont souvent on voudrait être déchargé, et déchargé en remettant notre liberté entre les mains d'un autre, pour ne pas faire des choix difficiles? Est-ce que ce n'est pas ça d'ailleurs qui permet bien des dictatures, que ce soit la dictature d'un chef sur son peuple, d'un leader sur son groupe, d'un patron sur ses employés, d'un gourou sur ses fidèles? Hein, on l'a dit tout à l'heure, les Hébreux vont reprocher à Moïse de les avoir libérés de l'esclavage. Car en Égypte, ils étaient certes esclaves, mais ils avaient à manger. Alors que dans le désert, ils sont libres, mais ils ont faim. Ils vont préférer le pain à la liberté. Et c'est une épreuve encore aujourd'hui pour bien des peuples. On n'a qu'à évoquer ceux de l'ex-empire soviétique qui souvent préféraient le retour en arrière, même s'ils étaient moins libres, mais parce qu'ils étaient mieux nourris. Eh bien, Dieu, qui est l'amour, lui ne peut voir que des êtres libres. Là où la liberté n'est plus, l'amour ne peut plus exister. Et la réponse de Jésus est claire, tu ne te prosterneras que devant Dieu. Servir Dieu, en effet, ne peut être qu'un geste de liberté, car ce ne peut être qu'un geste d'amour. Jésus a donc une haute considération de l'être humain qu'il appelle à la vraie liberté. Jésus invitera toujours ses disciples à respecter la liberté de leurs frères et de leurs sœurs. À la veille de son arrestation, il va mettre d'ailleurs en garde une nouvelle fois ses apôtres. Écoutons-le.
Les rois des nations dominent sur elles et les tiennent sous leur pouvoir. Pour vous, rien de tel. Le plus grand parmi vous, qui soit votre serviteur. Je suis venu pour servir et donner ma vie.
Oui, servir et aimer, c'est une seule et même chose, un seul et même geste. Servir et aimer en respectant la liberté. Eh bien, cela conduit parfois au don de sa vie, et ça a été le cas pour Jésus. c'est que le royaume de Jésus n'est pas comme ceux de ce monde. Le règne de l'amour peut conduire à donner, à livrer sa vie physique, comme la croix pour Jésus. Mais c'est pour sauvegarder son être spirituel. Les royaumes de ce monde sont basés sur la convoitise des biens matériels et la domination, et eux, ils ne peuvent nous conduire à la résurrection pour une vie d'éternité qui sera basée sur l'amour.
La mise à l'épreuve de Jésus est-elle aussi celle qu'expérimentent ses disciples ?
Oui, ces mises à l'épreuve de Jésus sont les nôtres. Choisir Dieu, c'est choisir le chemin de l'amour. Aimer, c'est inévitablement faire des choix, et des choix qui orientent toute notre conduite, tant envers notre prochain qu'envers Dieu. Est-ce que nous préférons un certain confort matériel à la naissance d'un enfant dans notre foyer ? Est-ce que nous misons sur l'autorité et la peur dans une entreprise plutôt que sur la concertation ? Est-ce que nous choisissons notre propre réussite au travail, quitte à ne pas être solidaires de nos compagnons et de nos compagnes ? Est-ce que nos relations avec les autres sont libres et libérantes ? Ou bien est-ce que nous achetons l'amour des autres par des cadeaux, par de l'argent ? Ou bien est-ce que nous dominons les autres par le pouvoir que nous donnent quelques responsabilités ? Notre relation à Dieu, est-ce qu'elle est vraiment bâtie sur un amour libre et libérant, ou bien est-ce que nous marchandons un peu notre amour de Dieu, à condition qu'il nous aide à réussir nos projets, à réaliser nos désirs ? Est-ce que nous suivons Dieu par soif de communion, ou bien parce que nous avons peur d'un juste châtiment dans l'au-delà ? Oui, marcher vers plus de liberté, vers un amour plus vrai, c'est peut-être ce qui nous est demandé pendant ce carême.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
254-8750. Un petit avis pour les groupes de partage d'évangile et pour tous ceux d'ailleurs qui voudraient faire partie d'un groupe de partage. Il y a à Laval une journée de ressourcement qui a lieu le samedi 6 mars de 9h30 à 15h. Le thème en est la lecture priante de l'évangile. C'est animé par Monsieur Paul-André Giguère, professeur à l'Institut de Pastoral. Ça se passe à la paroisse Saint-Elzéar. Le coût est de $5 par personne et on apporte son linge.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
À la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.